Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Vous écoutez bien la radio Nzamba Gateka Kawe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les titres de ce samedi 30 juillet 2022. La révocation de 35 magistrats par le chef de l'État burundais pour corruption suscite des réactions positives. C'est le cas de l'ancien président du syndicat des magistrats Simabu, Vital Chimilmana, qui salue la décision mais dénonce une justice à deux vitesses puisque selon lui, les gros poissons jouissent d'une impunité totale. C'est bien d'avoir destitué l'administrateur de la commune Mutambu pour détournement de fonds, mais il faudra penser également à réparer les torts qu'il a causés. Réaction des habitants de cette commune de la province Bujumbura. Il cite notamment les travaux de construction du marché moderne de cette commune, suspendu depuis 3 ans sans motif. Changement de stratégie en Tanzanie pour pousser les réfugiés burundais à rentrer. Une sensibilisation au rapatriement volontaire appuyée par une motivation d'un paquet retour attrayant se déroule à Nyarugusu en Tanzanie. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Selon certains réfugiés, ils n'entendent pas rentrer tant que l'insécurité persiste au Burundi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Clôture hier de la retraite du Conseil supérieur de la magistrature en Ngozi. Lors de cette rencontre de 2 jours, le président Évariste Ndayishimiye a fait savoir que 35 magistrats accusés de corruption seraient radiés. Je vous propose de l'écouter.
Hariho n'abacamanza bigenza nabi. Arico gituma ni manza zica zicibwa nabi. Twabica hirya no hino amazina
twazapya. Il y a des magistrats qui affichent une mauvaise conduite dans la profession, raison pour laquelle des procès sont souvent émaillés de plusieurs irrégularités. Nous avons étudié cas par cas. Nous avions devant nous plus de 40 dossiers au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons déjà pris un principe sacro-saint qu'un magistrat corrompu doit quitter le métier. Il y a plus de 4 dossiers que nous n'avons pas pu étudier parce que des éléments pour études de cas n'étaient pas complets. Ces dossiers pourront être mis en examen dans la prochaine retraite si tous les éléments sont réunis. Il y a aussi des dossiers qui sont marqués, peut-être par faute d'imprudence. Nous leur avons donné des remarques pour qu'ils puissent se corriger. Mais il y a d'autres cas de magistrats corrompus qui doivent quitter le métier de magistrat. Vous verrez même leur nom parce que la décision a été déjà prise.
C'était le président Évariste Ndayishimiye et la traduction était assurée par Pierre Gahungu. À ce sujet, Maître Vital Chimilimana, ancien président du syndicat des magistrats du Burundi, Simabu, regrette que certains magistrats jouissent de l'impunité du fait qu'ils sont proches du pouvoir ou qu'ils obéissent aux injonctions des responsables de la police ou du service national de renseignement. On l'écoute.
Twumvirije ingene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibyo yarayashikirije na cyane cyane.
Entendre les propos du président Ndayishimiye à la fin de la retraite quand il dit qu'il y a des magistrats qui ont mal presté et de dire qu'il y a eu certaines erreurs du commun, du mortel, normalement le Conseil supérieur de la magistrature, son rôle se limite dans l'évaluation des prestations des magistrats sur le nombre de dossiers qu'ils ont eu à faire et quel est le score qu'ils ont eu en ce qui est de bon ou de mauvais jugement. Ce rôle revient aux cours des tribunaux qui ont la prérogative de recevoir les appels de jugement et des pourvois en cassation. Ce n'est pas le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. En ce qui est de la corruption, nous pensons là aussi qu'il y a eu de l'exagération et de mensonges, à commencer par les responsables chefs de service, ces procureurs procureurs généraux, les présidents des cours, des tribunaux et autres. Mais quand il y a la lutte contre la corruption au sein de l'appareil judiciaire, nous observons que ce sont seulement des simples magistrats qui sont souvent visés. Jamais ces responsables ne sont pas poursuivis. On dirait qu'il y a ceux pour qui la corruption est acceptable et non pour d'autres. Ils sont accusés d'être corrompus parce qu'ils ont eu de malentendus avec certains responsables, peut-être pour n'avoir pas accepté d'arranger les responsables policiers, administratifs ou des renseignements. Mais ceux qui participent dans les travaux du parti politique au pouvoir, ceux qui acceptent les injonctions des administratifs civils et policiers ne sont pas accusés de corruption. C'est ce qui prouve qu'il n'y a pas de politique de lutte contre la corruption. Et au contraire, on dirait que l'accusation de corruption est devenue comme un règlement de compte.
Et puis cette couronne des habitants de la commune Mutambu de la province de Bujumbura, certains se plaignent contre l'administrateur de cette commune récemment destitué pour mauvaise gestion du patrimoine communal. Ils l'accusent de n'avoir rien fait pour développer cette commune. Les travaux de construction des marchés modernes avaient démarré, mais le chantier est au point mort depuis 3 ans. Ce que regrettent ses habitants, Joséphine Jones Muzima.
Ces habitants de la commune Mutambu se lamentent contre l'ancien administrateur de cette commune, Jean-Pierre Niongabo, pour n'avoir pas réalisé les travaux de développement qui s'en étaient engagés. Un de ses habitants explique qu'il y a plus de 3 ans, le marché de la commune a été détruit pour ériger un marché moderne, mais que rien n'a été fait jusqu'à maintenant.
Les travaux pour le nouveau marché avaient commencé, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont été suspendus. Aujourd'hui, arrivé à cet endroit, on est accueilli par une odeur nauséabonde. On ne peut pas imaginer que c'est un espace de l'État destiné aux travaux de développement communal. Nous tenons à vous informer que l'ancien administrateur Jean-Pierre Niongabo avait rencontré ces derniers jours les commerçants de la commune pour la reprise des activités de construction. Toutefois, l'administrateur leur donne des rendez-vous non tenus. Il vient d'être destitué sans aucune réalisation accomplie.
Une autre chose que ses habitants regrettent, c'est que l'ancien administrateur n'a jamais réhabilité la route impraticable qui mène au chef-lieu de la commune de Mutambu. Il sollicite l'aide des autorités de la province pour trouver une solution à ces problèmes.
Le deuxième problème concerne la route qui mène au chef-lieu de la commune Mutambu. Cette route qui prend source à la route nationale numéro 3, depuis sa source jusqu'à sa destination vers la commune Mutambu, cette route est impraticable. Nous demandons pourquoi ils ne construisent pas notre marché. On n'a même pas où on peut soumettre nos doléances.
Rappelons que l'administrateur de Mutambu, Jean-Pierre Niongabo, a été destitué ce 28 juillet car il s'est illustré par la mauvaise gestion du patrimoine communal, notamment par le détournement des fonds destinés à l'appui des coopératives culinaires.
Inzamba. Campagne de sensibilisation des réfugiés burundais au retour volontaire dans leur pays, cela se passe au camp de Nyarugusso en Tanzanie. Depuis le 18 de ce mois, le Comité international de secours, l'IRC, qui œuvre dans ce camp, distribue des dépliants sur lesquels est mentionné ce qu'ils auront comme paquet retour, à part les vivres et le matériel de couchage. Une somme de 270 000 francs burundais sera octroyée à chaque adulte, tandis que chaque personne de moins de 18 ans aura 137 500 francs burundais. Malgré cela, certains réfugiés ont confié à la radio Inzamba qu'ils n'étaient pas prêts à rentrer parce que l'insécurité qu'ils ont fui persiste encore au Burundi. Des détails avec Élie-Claude Nininahazwe.
Ce qui est surprenant selon ces réfugiés, c'est l'implication des organisations non gouvernementales dans le processus de sensibilisation des réfugiés burundais au rapatriement, alors que ce qui les a poussés à fuir dont l'insécurité persiste encore dans le pays. L'exemple qu'ils donnent, c'est l'IRC, le Comité international de secours, qui fait le porte-à-porte des rassemblements sur des places pour convaincre les réfugiés de rentrer de leur gré. Écoutez ce témoignage.
Ils passent dans chaque ménage et dans les endroits publics, comme dans les marchés, chez les commerçants. Ils sont assis sous l'ombre des parasols où sont distribués des papiers qui montrent la part réservée à chacun s'il accepte de rentrer. Ils expliquent que le Comité international de secours, collabore avec la branche de cette organisation non gouvernementale dans le programme de rapatriement des réfugiés burundais.
Les réfugiés disent que les promesses qui leur sont faites est une autre stratégie adoptée par les organisations non gouvernementales en connivence avec la Tanzanie dans la logique d'acheter leur conscience et les pousser à regagner leur pays.
Les réfugiés pensent que c'est une autre forme de conscientiser les réfugiés burundais à leur rapatriement, surtout que les ONG qui œuvrent dans le camp travaillent pour le compte de la Tanzanie sans se soucier du bien-être des réfugiés. Ces organisations ne font autre chose que sensibiliser les réfugiés burundais qu'il n'y a pas une autre voie que celle de se rapatrier.
La rédaction de la radio Inzamba Gateka Kawi a cherché par téléphone le représentant du comité international de secours au camp des réfugiés de Nyarugusu pour avoir sa version, mais sans succès.
Parlons à présent du Covid-19. Le gouvernement burundais n'a pas encore voulu protéger sa population contre cette pandémie de manière visible. Et c'est pourquoi une nouvelle vague a fait son apparition, propos de Comme qu'on accusait les chercheurs en maladies tropicales et épidémiologiques. Selon le ministère de la Santé et le Comité national de lutte contre cette pandémie, des cas positifs sont en hausse, surtout dans les capitales Bujumbura et Gitega. Sur les 7483 personnes testées du 23 au 25 juillet 2022, il s'est révélé 423 cas positifs.
Le chercheur Komkon Akuzé appelle au respect des mesures barrières contre le Covid-19.
On l'écoute.
On voit bien que l'État essaie de signifier cette poussée pandémique sur le fait que la population burundaise est contaminée surtout par les étrangers ou bien ceux qui viennent de l'étranger, qui passent les frontières. Il est évident que des fois la population est contaminée par d'autres qui viennent de l'étranger, mais il y a des mesures aussi qui ne sont pas suivies, et que ce soit à l'aéroport, que ce soit sur les frontières entre les pays voisins. Et vous savez bien que certains pays voisins, à part le Rwanda, je veux bien parler de la Tanzanie par exemple, ou de la RDC, la République démocratique du Congo, le taux de vaccination contre la COVID-19 est de moins de 1%. Cela veut dire que le flux des échanges entre les personnes de part et d'autre de ces trois pays est plus important. Cela aussi montre bien que la contamination est plutôt ne rencontre aucune barrière parce que dans ces trois pays, la couverture vaccinale est de moins de 1%, comme je l'ai dit. Ça aussi, on a bien vu que si vous fouillez bien dans les rapports du ministère de la Santé publique, et puis aussi des données de l'Organisation mondiale de la Santé, aussi des données qui sont interprétées par le comité de coordination de lutte contre la COVID-19 au Burundi, cela montre bien qu'il y a aussi une contamination, une propagation importante à l'intérieur du pays plutôt qu'à l'extérieur. Cela aussi se traduit par le fait que la population n'est pas protégée. Ça veut dire que le virus circule librement sans résistance au niveau de la population. On sait bien que l'État burundais a refusé carrément de vacciner sa population et aussi de faire des campagnes visibles comme le fait dans d'autres pays, mais en même temps n'a pas donné des raisons fiables, scientifiquement prouvées que les vaccins ne sont pas administrables à la population burundaise. Et ça, c'est un témoin visible que l'État n'a pas voulu, de manière visible, de protéger sa population contre ce fléau.
Place maintenant au mini-magazine, au cœur de la société. Il sera question d'analyser le protocole du marché commun comme l'un des avantages de l'intégration dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Bella Mugisha pour les détails.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idruya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Lors du deuxième sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu du 21 au 22 juillet à Arusha, en Tanzanie, les dirigeants des pays de la région ont exprimé un grand succès du protocole du marché commun, marqué par le développement du commerce, des capitaux et la création de l'emploi dans les pays membres de la communauté. Les pays membres profiteraient au même pied d'égalité des bienfaits de ce marché commun. Quels sont les préalables pour que les populations des pays membres puissent jouir de la libre circulation des biens et des personnes? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 30 juillet 2022, à la présentation Bella Mugisha. Bienvenue. Que prévoit la communauté de l'Afrique de l'Est sur la libre circulation des personnes et des biens? La réponse avec Emily Wasumba de la Radio Publique Africaine.
La libre circulation des personnes et des biens permet d'accélérer la croissance économique et le développement des États membres de l'EAC, la croissance et le développement qui constituent l'un des objectifs spécifiques du marché commun en vigueur depuis 2010. Cette libre circulation des personnes s'accompagne entre autres de la libre circulation de la main-d'œuvre, du droit d'établissement, du droit de résidence et de la non-discrimination des ressortissants des autres États membres en raison de leur nationalité et l'égalité de traitement des ressortissants des autres États membres. Le marché commun inclut aussi la libre circulation des marchandises, la libre circulation des services et des capitaux. Ces derniers sont facilités par l'union douanière qui est en vigueur depuis 2005, mais qui est devenue pleinement opérationnelle depuis janvier 2010. L'union douanière permet la libre-échange, c'est-à-dire l'imposition zéro sur les biens et les services entre les pays de l'East African Community et ces pays de l'EAC, impose un tarif extérieur commun pour les importations en provenance des autres pays non membres de la communauté. Pour se conformer à l'union douanière, les États membres de la communauté est-africaine se sont engagé à supprimer toutes les barrières non tarifaires existantes à l'importation sur leur territoire de marchandises en provenance de l'autre État membre et de ne pas en créer d'autres par la suite.
Certains Burundais qui font le commerce transfrontalier ne sont pas satisfaits de la libre circulation des biens et des personnes. Des problèmes politico-sécuritaires sont à l'origine. Suivez-les au micro de nos collègues de la télévision Renaissance.
Quand on s'approvisionnait au Rwanda, on avait un avantage car on ne faisait pas un long trajet et il n'y avait pas beaucoup de complications. Notre situation a basculé suite au conflit entre les deux pays qui ont fermé la frontière, même s'ils donnent comme prétexte le Covid-19. Nous, les citoyens ordinaires, nous en sommes victimes. Celui qui a un petit capital ne peut plus aller s'approvisionner au Rwanda car ça devient nécessaire de passer par la voie aérienne avec un ticket d'avion aller-retour.
Si nous importons des marchandises de l'Ouganda, à tous les postes de frontières que nous traversons, nous sommes arrêtés et continuons le voyage après avoir payé tous les taxes comme d'habitude, avant de mettre les visas dans nos documents de voyage. Je ne comprends pas comment est-ce qu'ils disent qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'EAC, alors qu'ils nous exigent tout ça. Par exemple, dans les pays de l'Union européenne, si tu vas dans un des pays membres, tu es libre de circuler dans tous les autres pays, comme si tu quittais une province à aller dans une autre. Nous pensions que même chez nous, ça serait ainsi. Importeront et exporteront des marchandises des pays membres de l'EAC, comme si nous étions dans un seul pays, ce qui n'est pas le cas.
En allant s'approvisionner en Tanzanie, en cours de route, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Il y a plusieurs barrières, celles de police ou d'autres érigées par la jeunesse du parti au pouvoir, comparables aux monopoles de ces chaînes. Nous dépouillons de nos marchandises. Pour éviter cela, celui qui a un capital de 3 millions, par exemple, met de côté 100 000 à payer sur les différentes barrières, sinon tu peux être dépouillé de tes marchandises.
La situation de l'insécurité qui prévaut dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est et le problème des infrastructures ne sont pas favorables à la viabilité des marchés communs. C'est la lecture de Faustin Dikumana, expert en économie et président de la PARCEM. Il propose des stratégies pour que l'intégration soit bénéfique à tous les pays en entièreté.
D'abord, il faut qu'il y ait la sécurité. La sécurité dans les pays membres, les crises politiques, il faut parvenir à endiguer les crises politiques dans les pays membres, aussi les relations, les tensions diplomatiques entre les pays membres. Actuellement, au sein de l'East African Community, il y a eu des tensions diplomatiques, des problèmes de sécurité, de crises politiques dans certains pays qui ont fait qu'il y ait même des réfugiés. La situation vraiment n'est pas favorable à la viabilité d'un marché commun. Deuxièmement, sur les infrastructures. Et le marché commun, le mode de service doivent être soutenus par une qualité des infrastructures, les routes, les chemins de fer, et des barrages hydroélectriques. Donc, il faut qu'il y ait des infrastructures de qualité. Mais ça exige beaucoup de moyens qui devraient même provenir de l'étranger, des bailleurs de fonds qui n'ont pas pu honorer l'engagement au niveau de la disponibilisation des fonds pour la construction des infrastructures de qualité. Il y a vraiment un retard dans la construction d'infrastructures de qualité qui devait soutenir le marché commun. Il y a l'harmonisation des politiques économiques qui reste un problème, qui reste un défi. Surtout que même les pays membres ne sont pas à même niveau de développement. Cela fait qu'au niveau du respect, par exemple, des facteurs de convergence, il y a des pays qui arrivent en retard, des pays fragiles, pauvres, comme le Burundi. Et il y a aussi ce problème de surpopulation dans certains pays. Il y a des pays avec une immensité territoriale avérée qui ont pris des balises pour éviter que les petits pays comme le Burundi ou le Rwanda, qui sont surpeuplés, pauvres, ne déversent pas les populations sur le territoire des pays immenses comme la Tanzanie. Il y a eu des balises qui ont été prises limitant le mouvement des personnes au niveau de ces pays, sans oublier ces crises de réfugiés qui sont toujours là, qui au lieu de favoriser ce mouvement, il y a toujours des craintes suite à cette tension politique qui fait qu'il y ait des populations qui sont déplacées.
Vous venez d'entendre que pour que les citoyens des pays membres de l'UEAC puissent bénéficier de la libre circulation des biens et des personnes, il faut arrêter de faire une intégration à deux vitesses. C'est par ici que se termine le mini-magazine de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Bella Mugisha était à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Revue de presse pour clore ce journal. Elle est présentée par Pierre Gahungu.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Commençons cette revue de presse par le journal Iwachu qui écrit sur une promesse du gouvernement concernant la construction prochaine d'un aéroport international d'Okabamba dans la province de Ngozi au nord du pays. Ce journal dit que le gouvernement a même déjà délimité et borné un terrain qui abriterait cet aéroport et que l'annonce a été faite ce vendredi 29 juillet par le ministre burundais ayant les infrastructures publiques dans ses attributions, Deogratias Nsanganyumwami. Le ministre Nsanganyumwami a tenu à préciser que le projet est là et qu'il reste à trouver des financements. Le même journal Iwachu parle de la reprise de l'abattage des bovins et de petits ruminants la semaine prochaine. Cette reprise est annoncée exactement pour mercredi le 3 août 2022 dans tout le pays. Cela a été dit dans une réunion avec les gouverneurs de province, les commissaires provinciaux et les cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Néanmoins, les marchés des ruminants resteront fermés. Au cours de cette réunion, il a été précisé que les animaux destinés à l'abattage devront passer une quarantaine de 7 jours avant d'être abattus. Ce journal note également que les animaux malades ou présentant des signes de la fièvre de la vallée du Rift ne sont pas éligibles à l'abattage et qu'ils ne seront pas accueillis dans les sites de la quarantaine. Et puis, les grossistes des produits sensibles doivent déclarer les quantités destinées aux communes, titre le journal ABP Info. Dans les colonnes de ce quotidien d'information, nous lisons que cela a été convenu dans une réunion tenue mercredi 26 juillet entre les administrateurs communaux de la province de Bujumbura, les commerçants grossistes des produits Brarudi, du sucre de la Sosumo, du ciment Boseco et des engrais chimiques Fomi. L'objectif de la réunion était de trouver une bonne solution à la rareté des dix produits et ainsi couper court avec la spéculation et la fraude qui entourent leur commercialisation. Les commerçants ont recommandé que la Brarudi et la Sosumo puissent revoir à la hausse les quantités destinées à la province de Bujumbura. Pour le cas du sucre, les participants ont suggéré que l'État puisse permettre l'importation de ce produit pour compléter celui produit localement. Et pour pallier aux éventuelles fuites, il a été recommandé aux fournisseurs de se conformer à l'orientation des administrateurs communaux quant à la répartition des quantités et devront déclarer la quantité destinée à chaque commune. Il a été également convenu que les produits cachés seront saisis et vendus aux enchères et que la police fouillera systématiquement tous les véhicules transportant ces produits sur les axes qui sortent de la province de Bujumbura et qui mènent vers la mairie. Terminons cette revue de presse par le journal SOS Média qui évoque un manque criant de l'eau dans les camps des réfugiés de Nduta et Nyarugusu en République unie de Tanzanie. Ces deux camps hébergent aussi les réfugiés burundais. Ce journal écrit qu'un seul robinet est ouvert dans chacun de ces camps et seulement pendant quelques heures. Dans le camp de Nduta, le manque d'eau se fait sentir dans les zones 15, 17 et 20 et dans la partie où sont installés les réfugiés venus du camp de Mtendeli, fermé en 2021. Dans le camp de Nyarugusu, ce sont les zones 8, 9 et 10 qui sont fortement affectées par le manque d'eau.
Ces réfugiés burundais craignent les maladies des mains sales, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ils demandent que les robinets fermés soient réouverts. Le journal SOS Média rappelle que la Tanzanie abrite plus de 126 000 réfugiés burundais. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Et voilà, merci Pierre Garung pour tous ces détails. Et c'est par cette revue de presse que se termine cette édition. Merci à vous toutes et tous, chers auditrices, auditeurs de la radio Inzamba Gate Kakawe, pour votre fidélité de nous avoir prêté oreille attentive. Bon week-end à tous, au revoir et à la prochaine.